Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de la philosophe Julia de Funès. Coup de cœur ce soir pour le mea culpa d'Angela Merkel. À 19h20, le grand débat du Club des Idées. Faut-il avoir peur des géants d'Internet, Google, Facebook, Amazon? Vous allez être très surpris, sidéré même, de savoir tout ce qu'ils savent sur vous. Grand débat ce soir en partenariat avec Courrier International sur ce coup d'état numérique qui menace nos démocraties. On en parlera avec nos invités et vos témoignages. Le journal d'abord avec Christophe Lamarre. 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
À compter de ce vendredi minuit et pour 4 semaines, ce sont donc dans ces 3 départements les mêmes mesures de freinage fortes qui sont mises en place que celles annoncées dans les autres départements concernés la semaine dernière.
L'Aube, la Nièvre et le Rhône passent en mode confinement, annonce il y a une heure d'Olivier Véran. Ils rejoignent comme prévu les 16 départements où il est interdit de se déplacer à plus de 10 km de son domicile, sauf dérogation.
Un sommet européen consacré à la crise sanitaire en pleine guerre des doses, dans la ligne de mire des 27, Londres et le laboratoire AstraZeneca accusés de ne pas respecter leurs engagements.
À quoi ressemblera le monde de demain? Quel sera le visage de l'après-Covid? Eh bien, il sera refait. La multiplication des visioconférences accélère le processus de recherche de la perfection. La chirurgie esthétique est en plein boom.
Mieux rémunérer les agriculteurs, le rapport de Serge Papin est entre les mains du gouvernement. Il propose 9 pistes pour améliorer leurs revenus.
La suite du procès d'IKEA France accusé d'avoir mis en place un système d'espionnage de ses salariés. Les anciens dirigeants étaient interrogés cet après-midi. Puis à la fin de ce journal, un hommage à l'un des grands monsieur du cinéma français, Bertrand Tavernier, nous a quittés à 79 ans.
La météo, Anissa Haddadi, le temps se dégrade, ça se confirme.
Et avant le retour du beau temps pour dimanche et plusieurs jours à suivre, c'est vrai que le temps est mitigé demain et samedi. Les pluies vont traverser le nord-ouest demain et le temps reste sec et calme dans le sud.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est devenu un classique en temps de crise. Olivier Véran a donc pris la parole ce soir pour faire le point sur l'épidémie. L'Aube, la Nièvre et le Rhône passent donc en mode confinement comme prévu à Neugal.
Oui, la tendance est à l'accélération de l'épidémie presque partout, a indiqué Olivier Véran. Mais dans ces 3 départements, le taux d'incidence progresse à grande vitesse depuis au moins 2 semaines, approchant ou dépassant les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants. De nouvelles restrictions sanitaires vont donc entrer en vigueur, dont la fermeture des commerces non essentiels et l'interdiction de se déplacer placé au-delà de 10 km sans dérogation. Mais dans les 15 prochains jours, la pression sanitaire va continuer à augmenter sur les hôpitaux, a prévenu le ministre de la Santé. Il faudra attendre encore 10 jours avant de constater un éventuel effet des mesures déjà prises sur les courbes. Alors en attendant, pas de changement de ligne, a répété le ministre de la Santé. Les écoles notamment vont rester ouvertes.
La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nous ne nions pas que le virus peut aussi se transmettre à l'école, puis de l'école vers les familles. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous travaillerons à des protocoles sanitaires renforcés en sus de ceux qui sont déjà mis en place dans les établissements scolaires.
Et l'espoir qui se profile, c'est la montée en puissance de la vaccination. D'ici la mi-avril, nous aurons vacciné plus de 10 millions de personnes, a martelé le ministre. Nous tiendrons les objectifs fixés avec l'arrivée en masse des doses de vaccins et avec du renfort du côté des vaccinateurs, puisque les infirmières pourront désormais prescrire et injecter les vaccins. La Haute Autorité de Santé devrait aussi autoriser les dentistes, biologistes, vétérinaires à le faire. Et le ministre a aussi appelé les étudiants en médecine et les médecins retraités à venir en renfort.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Plus que jamais, l'exécutif compte donc sur la vaccination, vous venez de le dire. C'est une sorte de course contre la montre, c'est vrai, qui est engagée. Et la bataille se joue aussi au niveau européen.
Oui, les 27 sont réunis en ce moment en visioconférence. L'objectif, c'est d'obtenir par tous les moyens les doses prévues dans les contrats. Et pour y arriver, Isabelle Horry, eh bien les Européens haussent le ton face à Londres et AstraZeneca.
Oui, et pour ça, ils brandissent des chiffres et une menace. Alors les chiffres, c'est la Commission européenne qui les a révélés tout à l'heure. Ils sont assez saisissants. Depuis décembre, l'Union européenne a exporté 21 millions de doses de vaccins vers le Royaume-Uni, du Pfizer essentiellement. C'est énorme quand on sait que 31 millions de doses ont été inoculées outre-Manche. Ça veut dire qu'elles viennent en grande partie du continent. Or, dans le même temps, aucune dose d'AstraZeneca n'a voyagé dans l'autre sens, alors que le labo a deux usines en Grande-Bretagne. Voilà pour les chiffres. La menace ensuite. Les Européens viennent de se doter d'un nouvel outil. Il permet justement de bloquer les exportations vers les pays qui gardent pour eux les vaccins produits chez eux. Tout ça doit permettre de créer une ambiance plus constructive, si j'ose dire, avec Londres. Ça ne fera pas apparaître des vaccins par magie, reconnaît une source européenne, mais ensemble, on peut faire pression sur AstraZeneca, qui n'a prévu de livrer qu'un tiers des doses attendues en Europe.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et puis c'est l'une des conséquences inattendues de cette crise sanitaire. Les conférences à distance, que l'on appelle les visioconférences, se développent et avec elles, les demandes de chirurgie esthétique.
Oui, c'est surprenant, mais c'est ainsi. Entre 20 et 30% de demandes en plus, ceux qui pratiquent la visioconférence, donc vos collègues, nos collègues de bureau, sont de plus en plus nombreux à vouloir améliorer leur apparence. C'est cela, Johanna Chabas ?
Oui, ou tout simplement se sentir mieux dans sa peau, car avec le télétravail, beaucoup n'en peuvent plus de se voir tout le temps, en tout petit, en bas de leur écran. À force d'être seul devant son propre reflet, l'estime de soi en prend un coup, selon le psychanalyste Saviero Tomasella.
Quand on se voit dans le regard des autres, et que ce regard est aimant ou au moins bienveillant, on se voit comme une personne suffisamment belle, intéressante, aimable. Mais sur l'écran froid, technique, la caméra, elle met au contraire en valeur ce qu'on va trouver être des défauts pour nous. On va se focaliser sur eux.
Les patients sont aussi plus nombreux car paradoxalement, c'est plus pratique pour eux de se faire opérer en temps de Covid. Pas de voyage, pas de dépenses de loisirs, donc plus de budget pour faire une chirurgie. Puis pour Caroline qui vient de se faire un lifting, le confinement avec l'isolement imposé est le meilleur moment pour faire une opération discrète.
Si je veux être discrète vis-à-vis de mon entourage, si jamais il y a un hématome, je m'enferme chez moi et au bout de 3 semaines, de toute façon, je redeviendrai normale.
La convalescence est également plus confortable. Avec le télétravail, les patients peuvent rester chez eux plus longtemps en bougeant le moins possible.
Alors, c'est un peu étonnant que l'on pratique ces opérations de chirurgie esthétique, Johanna, parce qu'on sait qu'on déprogramme beaucoup d'actes chirurgicaux en ce moment.
Oui, il faut savoir que ces cliniques spécialisées ne sont pas obligées de déprogrammer autant que les autres, car elles n'ont pas de réanimation. Alors certaines opérations sont bien annulées, surtout les plus risquées, et la cadence est ralentie car des infirmières sont envoyées ailleurs en renfort.
Explication Johanna Chabas.
19h07, comment venir en aide aux agriculteurs, victimes trop souvent d'une guerre des prix imposée par les industriels et la grande distribution? Eh bien, un rapport propose quelques solutions.
Serge Papin connaît bien le dessous des cartes puisqu'il a dirigé les magasins Système U. Et pour sortir les agriculteurs du piège de la production au moindre coût, il vient de remettre un rapport qui propose 9 pistes pour améliorer leur revenu. Et il y a urgence parce que la colère gronde. Exemple à Lyon où les agriculteurs ont envahi la place Bellecour, Jean-Luc Boujon.
Oui, les agriculteurs ont commencé à quitter la place Bellecour vers 17h. Au total, ils l'auront occupée durant 5 heures avec leurs 160 tracteurs venus de tous les départements limitrophes, le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Isère, la Savoie, la Saône-et-Loire. Leur message est inscrit sur de nombreuses remorques. On veut vivre de notre métier, on veut être payé au juste prix, un prix qui tient compte des coûts de production, expliqua Maël, un jeune de 23 ans qui vient de s'installer dans les monts du Lyonnais.
C'est ras-le-bol, quoi. Ça fait 2 ans qu'il y a la loi Egalim qui est en place, on nous promet des prix et il n'y a rien qui suit, quoi. C'est la grande distribution, je pense. Oui. Quand je vois un litre de lait qu'on nous achète à 36 centimes, qu'on retrouve à plus d'1 euro en grande surface, la marge, elle est énorme, quoi.
Combien de centimes il vous faudrait pour être bien ?
À 40 centimes, on s'en sortirait bien, quoi.
Voilà, mieux redistribuer, mieux réguler les rapports avec les grandes surfaces, c'est ce qu'ont demandé les agriculteurs, qui estime que le rapport Papin remis aujourd'hui au gouvernement va dans le bon sens, explique Pascal Girin de la FDSEA.
Il est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde que ce qu'on propose nous, c'est-à-dire que la négociation des prix se fasse bien dans la cour de la ferme entre l'agriculteur et son premier acheteur, et qu'ensuite ce coût de production ne soit à aucun moment remis en cause par les différents intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le consommateur.
Voilà des agriculteurs qui ont eu le sentiment d'être entendus aujourd'hui et qui sont repartis avec la promesse d'un rendez-vous la semaine prochaine avec Julien de Normandie, leur ministre de tutelle.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal, 19h11, avec le procès d'IKEA devant le tribunal correctionnel de Versailles. La journée a été consacrée à l'audition d'un ancien cadre dirigeant.
Jean-François Paris s'était donc chargé de la gestion du risque chez IKEA France. Il était entendu aujourd'hui et c'est le seul cadre à reconnaître l'existence d'un système de fichage des données personnelles des salariés. Sauf que, Marion Dubreuil, il a été mis en difficulté par ses co-prévenus.
Oui, seul contre tous, l'ex-directeur de la gestion du risque, en costume bleu marine, a livré une forme de mea culpa à la barre. Au début, j'avais conscience qu'on était borderline, admet Jean-François Paris. Quand l'affaire a éclaté en 2012, j'ai compris qu'on était dans l'illégalité. C'est par lui que transitaient les demandes d'antécédents judiciaires sur les salariés. Il affirme que c'est Jean-Louis Bayot, le PDG d'IKEA France, qui lui avait ordonné de mener des vérifications de masse, un budget annuel de 600 000 euros. Mais Jean-François Paris a des trous de mémoire dans lesquels les avocats des autres prévenus s'engouffrent. L'ex-cadre de IKEA s'embrouille dans les dates et ne sait plus quel dirigeant a contresigné telle ou telle facture, à tel point que la partie civile est obligée de voler à son secours. Sur les bancs de la défense, lance l'avocat de plusieurs salariés, on essaie de faire croire que ce n'est pas une affaire IKEA, mais une affaire Paris.
Marion Dubreuil au tribunal correctionnel de Versailles.
Le monde du cinéma pleure la disparition d'un grand réalisateur. Bertrand Tavernier est décédé.
Il avait 79 ans et sa carrière est jalonnée de grands succès populaires, mais aussi critiques. Bertrand Tavernier avait notamment reçu le César du meilleur réalisateur pour Capitaine Conan. Claude Lelouch salue la mémoire d'un grand monsieur.
C'est la personne qui connaissait le mieux le cinéma et qui en parlait le mieux et qui donnait envie aux autres d'aller voir des films. C'est une grosse perte. Une grosse perte pour le cinéma français. On a passé notre vie à aller voir les films des uns et des autres. Et ça donnait envie à chaque fois de faire d'autres films. Voilà. Et c'est une énorme perte pour tous les amoureux du cinéma.
Claude Lelouch qui réagissait à la mort de Bertrand Tavernier, qui vient de disparaître à l'âge de 79 ans.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. La météo avec Anissa avant le retour du beau temps, parce qu'il va revenir le
oui,
beau temps quand même,
hein,
vous nous rassurez.
Bon, ouais.
C'est déjà une bonne chose. Bah, y a quand même une perturbation qui va arriver demain avec de la pluie en prime.
Oui, le ciel est déjà très chargé en Bretagne et en Normandie demain matin. Un ciel menaçant et gris. Sur toute la moitié nord du pays, nous aurons des brouillards sur les hautes France, la région parisienne, la Bourgogne-Franche-Comté. Attention donc à ces brouillards qui vont se dissiper à la mi-journée. Et puis dans l'après-midi, la perturbation, elle avance, elle arrive par le nord-ouest et elle va toucher les régions situées entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Ça concerne donc la Normandie, la Bretagne, le Cotentin. Il pleut, parfois même fort, sur la Normandie demain après-midi. Sur les côtes de la Manche, le vent se lève aussi, hein, il va souffler jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, nous avons un temps mitigé, partagé entre éclaircies et nuages. Un temps calme et sec dans le sud, au bord de la Méditerranée. Là, il fait beau, ça ne bouge pas. Les températures, elles sont douces. 0 à 10 degrés demain matin, nous aurons 3 à Lyon, 5 à Paris et Bordeaux, 7 pour Bastia et 8 à Nice. Et puis dans l'après-midi, comptez 11 degrés à Cherbourg, 14 à Biarritz, 16 pour Paris, 20 à Toulouse et 21 degrés pour Cahors.
On s'arrête.
La maximale.
On s'arrête là. Hein, je ne veux pas entendre 25 degrés à Ajaccio.
Non, c'est
ou 26
21,
degrés à Bastia.
C'est la main.
D'accord.
Non, par contre, je peux vous dire qu'il va falloir être patient à partir de dimanche. Et jusqu'au milieu de semaine prochaine, on a du très beau temps pour tout le monde, sans exception.
Voilà, mais le week-end, ça serait mieux, parce que vous savez qu'on ne travaille pas le week-end.
Je fais ce que je peux, Julien.
Merci, vous revenez avec des bonnes nouvelles demain, j'espère, en tout cas, à partir de 18h. Merci à vous, Anissa, bonne soirée. Dans quelques secondes, le grand débat, comment les géants d'Internet nous surveillent. Débat absolument passionnant, vous verrez, avec nos invités. D'abord, la carte blanche offerte ce soir à la philosophe Juliette Funès.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien.
Ravi de vous retrouver.
Moi aussi.
Le mea culpa historique de Merkel. Vous vouliez nous en parler ce soir parce qu'il y a aussi le mea culpa d'Emmanuel Macron sur la stratégie vaccinale européenne. Nous sommes dans les mea culpa en somme des dirigeants.
Il y a beaucoup de mea culpa aujourd'hui. Et le mea culpa de la chancelière et le mea culpa en général est bien l'aveu d'une erreur. C'est toujours l'aveu d'une erreur. Mais cet aveu d'une erreur n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force d'âme et c'est la victoire de l'intelligence. Car aucune victoire n'est plus grande que lorsque l'intelligence est capable de renoncer à ses propositions initiales au profit du principe de réalité. Et c'est ce qu'illustre, dans une certaine mesure, le mea culpa de Macron, du président Macron aujourd'hui, et ce qu'illustre mieux encore la claque que la chancelière inflige à son ego, à son image, au nom du principe de responsabilité et de pragmatisme.
Oui, elle a d'ailleurs dit « je m'excuse
»,
ce qui est... historique, on n'avait jamais entendu ça dans la bouche d'un responsable politique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, Juliette Funès, de la grandeur politique et du style aussi ?
Oui, la grandeur politique, on le voit à travers cet exemple, c'est de se soumettre à la réalité, quitte à se contredire, et de ne jamais soumettre la réalité au principe de non-contradiction. C'est un peu la différence qu'on peut faire entre les idéologues et les vrais dirigeants ou les vrais stratèges. Pour les premiers, les idéologues, la réalité doit se conformer à leurs interprétations, se tordre au point de rentrer dans leur cadre de pensée, sinon à les nier. Mmh. Pour les seconds, les stratèges, les hommes d'action, les femmes d'action, l'intelligence d'action consiste à adapter sans cesse sa pensée et ses responsabilités, autrement dit élargir ses manières de penser, pour les ajuster au mieux à la réalité.
En somme, vive les mea culpa pour les responsables politiques. C'est vrai que ça fait du bien, vous avez raison de le souligner.
Oui.
Quelle morale en tirez-vous, vous, de cette affaire ?
Qu'en voulant se grandir à ne jamais se contredire, on se rabaisse toujours. En se soumettant au principe de réalité, quitte à se désavouer et à se voir critiquer, diminuer, on en ressort toujours grandi.
Je m'attendais à une petite citation. Il y a toujours une petite citation dans vos éditos.
J'ai pas eu le temps.
Bon, pour la
prochaine fois
alors. Mais j'aime bien quand vous citez des auteurs. On a l'impression d'être plus intelligent quand vous
promis,
terminez.
La prochaine
mais
fois,
on a appris
deux.
plein de choses. On est déjà plus intelligent après vous avoir écouté. Merci
c'est
Juliette
gentil,
Finesse.
Merci Julien. À bientôt.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, faut-il avoir peur de la toute-puissance des géants d'Internet qui connaissent absolument tout de vous, Facebook, Google et les autres, qui compilent, vous allez comprendre pourquoi, vos données personnelles et vos traces au quotidien. C'est désormais la loi du plus fort qui régit Internet et nous avec. Alors est-on sous surveillance? Est-ce une menace aussi pour la démocratie? Et comment échapper à cette société Big Brother? On en parle donc ce soir avec nos invités, en partenariat d'ailleurs avec Courrier International, qui y consacre son dernier hors-série, qui est absolument passionnant et qui s'appelle donc « Le coup d'État numérique ». Bonsoir, Annick Rivoire.
Bonsoir.
Vous êtes justement journaliste spécialiste du numérique à Courrier International et vous êtes là pour nous présenter aussi les articles que vous compilez dans ce Courrier International hors-série. Bonsoir, Joël Toledano.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine et auteur de « GAFA, reprenons le pouvoir », sorti aux éditions Odile Jacob. Et puis Alexandre Lazareg est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique. Alors, j'ai commencé avec vous, Annick Rivoire, puisqu'on est en partenariat avec Courrier International. Ça s'intitule « Le coup d'État numérique » avec plusieurs articles de la presse étrangère qui sont très éclairants, qui vont tous plus ou moins dans le même sens. On a donné les clés, c'est ce qu'on lit hein, dans les articles, de nos vies aux géants d'Internet qui ont littéralement pris le pouvoir. Alors ça fait peur, parce qu'on apprend évidemment plein de choses, et on apprend notamment comment aujourd'hui nos données personnelles et nos smartphones font que nous sommes en permanence pistés et surveillés. C'est ça la réalité ?
Oh oui, c'est clairement la réalité. Je pense qu'on en a de plus en plus conscience, même si on a plutôt tendance à ne pas vouloir trop savoir à quel point tout ce qu'on fait, depuis le réveil jusqu'au coucher, même le temps de sommeil.
Oui.
Ce qu'on peut savoir, aujourd'hui on a appris le temps de sommeil d'Emmanuel Macron, par exemple, parce qu'il n'a pas activé le fait, enfin sur Telegram, il laisse cette donnée accessible au grand public.
On peut connaître le temps de sommeil du président de la République.
Du président
français.
De la République, c'est lui qui a fait
oui,
en sorte...
On ne sait pas, nous, tout ça. On ne sait pas qu'on laisse nos données... active et que les géants d'Internet peuvent y avoir accès. Mais on va rentrer dans le détail. Je voudrais simplement partager d'abord ces quelques paroles de Français qu'a recueillies pour nous Marie-Baptiste Duhard sur leur rapport à cette surveillance et notamment à ces géants d'Internet. Écoutez.
Maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'on a des pubs suggérées. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a cherchées sur Google. C'est des choses qui apparaissent d'un coup, dont j'ai juste parlé à voix haute.
Là où je trouverais ça en effet un peu plus gênant, c'est si l'on surveillait pour qui je vais voter et ce que je pense de certaines personnes, oui.
Qu'on utilise nos datas, ce que moi j'ai envie d'acheter, de faire pendant mes vacances ou quoi, ça m'embête plus. Ouais.
Quand on y pense, ça peut être assez angoissant de savoir qu'on a vraiment toutes nos données qui sont récoltées dans une base. Si c'est des données de savoir si je suis une fille ou si j'aime bien manger du chocolat ou acheter un parapluie, ça me dérange pas forcément plus que ça. Non.
C'est pas quelque chose qui me soucie particulièrement. Je pars du principe que c'est des choses qui justement me font aussi plaisir si je vais voir ces sites. Donc en fait, après avoir des publicités derrière, c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça.
Non, je trouve ça normal. C'est gratuit, on a les produits, hein, voilà.
Voilà, c'est bien résumé ça, Joël Toledano. C'est gratuit, on est le produit. Il y a quand même, à travers ces paroles de français, une sorte de méconnaissance du niveau d'information que les GAFA détiennent sur nous.
Alors, je voudrais d'abord préciser, c'est pas les GAFA dont vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler de Google et de Facebook.
Oui.
Vous n'êtes pas du tout en train de parler...
Amazon aussi.
Non, les données... les données, elles peuvent servir à mieux cibler ce que vous allez acheter.
Oui.
Mais ce n'est pas du tout le même métier, le même business, le business de la publicité ciblée. Donc, vous avez deux acteurs dont le modèle économique est fait sur de la publicité ciblée. C'est Google, c'est Facebook. Et
par rapport à ça, vous pourrez aussi parler de Twitter, vous pourrez aussi parler d'un certain nombre d'autres acteurs. Mmh. Ce sont ces acteurs-là pour lesquels la remarque de l'auditeur qu'on a entendu est pertinente, c'est quand il a dit oui. « c'est gratuit ».
C'est vrai.
Quand vous allez mais sur Amazon, c'est pas gratuit.
Oui, mais plus généralement, Amazon sait ce que vous cherchez sur son moteur de recherche, connaît votre panier moyen et donc votre niveau de revenu supposé, le moment de la journée où vous êtes le plus enclin à acheter. Ils ont des informations énormes sur qui nous sommes.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui savaient, et depuis longtemps, vous avez des cartes de supermarché dans lesquelles, pour certains d'entre nous, il y a la consommation. Je pense que c'est très, très différent,
oui.
cette idée d'avoir un modèle économique qui est centré sur ce qu'on appelle l'attention, l'engagement,
oui.
et qui conduit à ce moment-là à effectivement avoir des algorithmes et des systèmes qui veulent vous conserver le plus longtemps possible pour que vous consommiez le plus de publicité.
Oui.
Ça, c'est un modèle économique. Le modèle économique d'Amazon, on peut en parler aussi,
oui,
mais c'est pas
le
même.
On va en parler. Mais il y a quand même un problème à ce que ces GAFA, pardon de leur dire, mais détiennent autant d'informations pour nous, même si la finalité est différente. On comprend bien, finalité commerciale, une finalité pour nous proposer des achats dans l'autre, mais ça pose un problème que quatre groupes privés détiennent autant d'informations sur autant de gens dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Alexandre Lazareg?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui ressort des propos qui ont été tenus par nos concitoyens, c'est que d'une certaine manière, ils disent « c'est pas très grave pour moi si on me propose des produits qui sont susceptibles de m'intéresser ». Car initialement, le traitement des données visait à faire du marketing ciblé. Et après tout, pourquoi pas si vous avez le produit qui est adapté à vos besoins. Mais peu à peu, on se rend compte que insidieusement, on trace les individus d'abord pour leur proposer des goûts de consommation, des
oui.
goûts. Mais peu à peu, ça devient une influence. On
oui.
provoque des choix. Et demain, ça peut être aussi des choix d'opinion.
Oui.
Mais ça l'est déjà, parce qu'il y a eu déjà tout un tas de scandales à ce sujet.
Et on va en parler. C'est un point capital. Comment ces informations que nous donnons à ces GAFA peuvent aussi avoir des incidences sur notre démocratie, sur les élections présidentielles aux États-Unis notamment, et puis sur la circulation de l'information, car ce sont ces GAFA aujourd'hui qui détiennent l'information. On en parle après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite, 19h30 du débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la toute-puissance des géants d'Internet qui connaissent beaucoup, beaucoup de choses sur nous et aux dangers que ça peut induire, notamment pour notre démocratie. Alors, c'est une émission en partenariat avec Courrier International qui publie ce hors-série absolument passionnant sur ce sujet, intitulé « Le coup d'État numérique ». Et on est toujours avec Annick Rivoire, journaliste spécialiste du numérique à Courrier International. Je voudrais revenir avec vous sur cet article du New York Times. C'est une enquête. Une équipe a consacré une grande enquête sur la problématique de la surveillance et a en fait fait une expérience très simple en utilisant les caméras en direct accessibles sur Internet. Et en quelques heures, eh bien, les journalistes sont parvenus à suivre des milliers d'Américains de façon très très précise. À quelle heure telle personne arrive au travail, avec qui il prend un café, à quelle heure il quitte le bureau, avec un outil de reconnaissance faciale développé d'ailleurs par Amazon, on peut identifier l'identité des personnes que l'on suit. C'est vertigineux.
Oui, complètement. Et là, en l'occurrence, ils ont retrouvé un des Américains qui se promène autour de ce parc où ils ont...
Ils l'ont identifié, ils l'ont contacté.
Ils l'ont contacté, ils lui ont dit, bon voilà, on vous a reconnu, est-ce que vous voulez bien faire partie de notre enquête? Et il a été évidemment extrêmement bluffé, puisque sur les images, on ne le voit que de côté.
Oui.
Et
la reconnaissance faciale,
a réussi à l'identifier.
Alors, ce sont des réseaux de caméras installés depuis longtemps par des entreprises ou des municipalités, il y en a partout dans le monde, qui sont en libre accès sur Internet et qui, sans le savoir, ont créé d'une certaine manière un réseau de surveillance de masse qui échappe à tout contrôle. Est-ce que vous connaissiez cette problématique, Joël Toledano?
Je dois vous avouer que je l'ai lu hier et donc ça m'a beaucoup intéressé. Cela étant, ça n'échappe pas tout à fait à tout contrôle. Par exemple, sur ce sujet-là, la CNIL a posé un certain nombre de règles. Donc après, ça dépend dans quel monde on vit et comment on accepte ou pas que ce genre de choses soit possible, soit consultable, combien de temps on conserve les données, etc.
Oui,
etc. Donc c'est bien la différence entre les potentialités du numérique qui sont faramineuses, à certains égards, et ce qu'on en fait, comment c'est régulé, et est-ce qu'on laisse
ce monde est évolué au fil de l'économie.
C'est bien que la CNIL mette des garde-fous, mais quand même, le système est là. Ça veut dire que n'importe qui, avec un petit peu de talent de recherche sur Internet, peut aller se balader ici ou là, regarder ce que font tel ou tel et les identifier grâce à ce système de reconnaissance faciale. Je trouve ça, Alexandre Lazarek, vous êtes avocat spécialiste en droit numérique, assez inquiétant quand même.
Inquiétant, mais il faut bien prendre acte que les pouvoirs publics, et même au niveau européen, ont pris un certain nombre de mesures depuis un certain nombre d'années. Il y a une véritable prise de conscience du législateur sur cet enjeu.
Mais on n'a pas toujours un coup de retard quand même ?
Je dirais d'abord qu'on a une législation qui n'est pas spécialement appliquée par l'ensemble des acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, enfin les autorités publiques et puis aussi les entreprises. Donc on est encore dans un travail de pédagogique où il faut que chacun prenne sa part d'une certaine manière, parce que la réalité c'est que les individus, les citoyens dont vous parliez qui sont surveillés, ils ont des droits. Mais encore faut-il qu'ils les exercent et qu'ils sachent qu'ils les ont. Parce qu'en réalité, ils ont tout à fait le droit de savoir qui détient ces données, c'est qui les filme, l'identité de chacun, demander d'être effacé, de s'opposer à ça. Ça, c'est des droits qui sont là, qui sont disponibles. Et les gens doivent le savoir.
Oui, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Joël Toledano. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur émérite. Il y a un marché de la donnée. Il y a un marché de la donnée qui est, je regardais les chiffres, estimé par le World Economic Forum, à 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire que nos données qui sont collectées par les géants du net, Facebook, Google et les autres, sont ensuite revendues.
Alors je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas une confidence d'ailleurs. Ils ne les revendent absolument pas parce que s'ils les revendaient, ça perdrait de leur valeur.
Donc ils les gardent pour eux.
Ils les vendent habillés, si je puis dire. Quand vous voulez aller faire de la publicité, enfin vous, n'importe qui,
une entreprise, c'est
sur ciblé, il s'adresse à Facebook. Et à ce moment-là, c'est Facebook qui cherche à vous vendre.
Donc on passe par le canal Facebook pour faire la publicité.
Sinon, si c'était vendu, ils auraient perdu toute leur valeur et ils ne pourraient plus en faire cette exclusivité qu'il y a. Et c'est bien l'un des problèmes, c'est que le système est tel que ces acteurs sont complètement oligopolistiques, monopolistiques, et qu'il n'y a plus personne autour pour leur faire de la concurrence et pour rendre ce genre de problématique un peu différente de ce qui est en train de se passer.
Mais c'est insensé quand même qu'on ait donné tant de pouvoir à si peu d'entreprises privées, qui plus est. Ils ont le pouvoir d'influencer les masses aujourd'hui quand même avec ces données.
On ne leur a pas donné, ils l'ont pris.
Pardon, ils l'ont pris, c'est vrai, vous avez raison. Mais on les a laissés prendre. Je regardais Facebook, capitalisation boursière, 735 milliards de dollars. Amazon, 1600 milliards de dollars. Je crois que c'est la plus grande capitalisation boursière au monde. Après 1000 milliards pour Google. Et Apple, quasiment 2000 milliards de dollars. Mmh. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et c'est 37 millions de Français. 37 millions de Français, c'est plus de la moitié de notre population.
Et c'est un modèle économique qui fonctionne sur le triptyque données, publicité, ciblée et réseaux sociaux.
Oui.
D'accord ? Et c'est comme ça qu'il faut le prendre comme un modèle économique. C'est-à-dire que si on veut leur reprendre le pouvoir qu'ils ont pris pour eux-mêmes, il faut regarder le modèle économique et s'attaquer à ce modèle économique, aux algorithmes qui sont derrière, parce que ces algorithmes sont là pour vous faire rester le maximum de temps. Et ça signifie une polarisation des avis, de l'agressivité et tout un certain nombre de choses que je crois beaucoup de gens connaissent maintenant.
Alors Renaud Perret est avec nous par téléphone. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez 39 ans, vous êtes informaticien et vous dites, moi j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux il y a déjà quelques temps, je crois que c'était il y a 5 ans, en 2016, parce que vous en aviez marre d'avoir le sentiment, à raison d'ailleurs, d'être surveillé en permanence, c'est cela ?
Oui, c'est ça. Effectivement, je travaille un petit peu dans le domaine, donc j'ai voulu reprendre la main sur mes données, et c'est ce que j'écoutais de vos intervenants à l'instant. Et effectivement, les publicités ciblées et le temps, on va dire le temps de cerveau utilisé par les réseaux sociaux m'ont fait dire qu'à un moment donné, c'était pas la vraie vie et qu'il fallait que je retourne dans la vie réelle, on va dire.
Comment vous avez fait pour reprendre le contrôle de vos données et est-ce que c'est possible ?
Alors, c'est possible, oui et non. Alors, pour reprendre le contrôle de mes données, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai supprimé tous mes comptes, que ça soit Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Google, j'ai pas encore réussi à m'en passer totalement. Et à chaque fois,
c'est pas facile de se passer de Google. Hein. Ah, non. Là, il y a un principe de réalité quand même.
Exactement.
Et d'un téléphone portable.
Je ne veux pas vivre dans une caverne non plus.
Ouais. Et d'un téléphone portable, c'est vrai, c'est compliqué de se passer d'un téléphone portable. Et vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre vie en quelque sorte et d'être maître de vos données. Et d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à le faire sans être trop pénalisé dans votre quotidien ?
Alors oui, ça demande un petit peu de recherche et un petit peu de, on va dire, de non-facilitation. Après, récupérer ces données, oui, parce que effectivement, la CNIL nous permet de supprimer entièrement nos données, données à un GAFA ou autre, d'ailleurs. Oui. Et derrière, ça m'a demandé du temps. Alors, étant de la partie, c'est quand même plus simple pour un informaticien,
oui.
Mais d'utiliser un hébergeur français, d'utiliser des logiciels open source, ça permet quand même de récupérer.
On comprend, c'est pas si simple quand même en vous écoutant. Merci Renaud Perret pour ce témoignage. Merci d'avoir passé quelques instants avec nous. Avant de marquer une nouvelle pause, Alexandre Lazareg, avocat spécialiste en droit du numérique, j'ai une question très précise. Est-il vrai que nos iPhones, pour citer la marque à la pomme et qui est la plus répandue et qui détient une forme de monopole avec Samsung, est-il vrai l'appareil nous écoute?
En tout cas, ils ont été sanctionnés et ils ont été mis en garde par les autorités, que ce soit au niveau européen et national, parce qu'ils ont tracé les individus, parce qu'ils les ont enregistrés pour améliorer, par exemple, leurs applications qui consistent à utiliser les voies connectées, vous savez.
Oui.
Donc, tout à fait, nous sommes absolument pistés, tracés. Et pour revenir sur les propos qui ont été tenus par l'informaticien, je voudrais dire que je continue à croire et je suis convaincu qu'il est tout à fait possible d'utiliser l'ensemble de ces outils. Si on a parfaitement conscience de ce qu'on laisse sur Internet, il faut simplement avoir un peu de recul et savoir qu'on peut être tracé et, prendre un sens, avoir utilisé ces outils avec le sens de la mesure, ne pas laisser sa vie privée ouverte à tous,
oui.
Et avoir conscience qu'il y a des gens qui nous regardent.
Pas si facile, mais on entend ce que vous dites. On marque une pause et puis dans un instant, on parlera aussi du rôle de ces GAFA sur la maîtrise et le contrôle des informations. C'est important, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
À 19h40, on poursuit donc le débat du Club des Idées. Effectivement, je voudrais qu'on s'intéresse à ces GAFA et au rôle qu'ils ont pour nos démocraties et à la manière dont ils détiennent aussi le pouvoir sur l'information. Pourquoi sur l'information? Parce que c'est sur ces réseaux, sur Facebook notamment, que se fait l'information partout dans le monde. Voilà, il y a la presse écrite, il y a les télévisions, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui sont un vecteur d'information très très important. C'est d'ailleurs ce que vous montrez dans un certain nombre d'articles que vous publiez. Anne Écrivoire, vous êtes journaliste spécialiste du numérique à Courrier International. Ils ont vraiment la main sur l'information et ils peuvent ici censurer ou ici limiter l'accès à certaines informations, Facebook notamment.
Oui, c'est pas eux qui ont la main, c'est les utilisateurs qui partagent. Le truc, c'est que effectivement, c'est parce qu'ils partagent que l'information est la plus lue et se diffuse.
Oui, vous avez raison, mais il y a des exemples quand même. La manière dont Twitter a fermé le compte de Donald Trump et de ses milliers de femmes. Alors par exemple, on pense qu'on veut de Donald Trump, mais on peut être pour ou contre, mais ça pose quand même un principe de démocratie très fort qu'une entreprise privée décide unilatéralement de censurer le compte d'un président américain, en l'occurrence, et de millions de fans. Non, mais ça ne vous pose pas de problème.
Pas du tout,
pose pas
c'est
problème.
Une entreprise privée,
oui,
qui vous vend un service, qui a des conditions générales d'utilisation,
oui,
dont on a au début rigolé quand il s'agissait de Facebook, parce qu'il ne laissait pas voir les seins de femmes, quoi qu'il arrive. Mais c'est eux qui définissent ce qu'ils passent dans leurs tuyaux.
Oui.
On est en train de... D'ailleurs, ce n'est pas du tout le scandale qui a eu lieu aux États-Unis.
Oui.
Parce que, pour tout le monde, effectivement, c'est une entreprise privée qui fonctionne, comme je vous le disais. Et à ce moment-là, ils ont le droit, non seulement ils ont le droit de faire, effectivement, de considérer qu'ils doivent l'arrêter, mais en plus, d'après la loi américaine, ils n'ont courent absolument aucun risque.
Oui.
C'est leur mais, activité.
Enfin,
c'est pas un service public.
Oui,
hein.
C'est vrai.
Le problème, c'est qu'ils ont un poids dans la démocratie, okay, dans l'information et
mais
dans le partage et dans la conversation mondiale.
Mais ça, c'est le sujet.
Qui est devenu tellement énorme que c'est absolument incroyable. Alors, on a réclamé à Facebook, Twitter, etc., et notamment pendant la campagne des élections américaines, qu'ils contrôlent, qu'ils limitent, qu'ils modèrent, qu'ils empêchent les fake news, donc les fausses informations, parce qu'il y en a eu quand même tout un tas.
Oui.
Et en fait, aujourd'hui qu'ils ont arrêté un président américain et qu'ils ont coupé le compte, effectivement, il y a un paradoxe, c'est que on ne peut pas leur reprocher complètement de l'avoir fait, mais ça montre à quel point ils sont surpuissants.
Ça pose la question du contrôle de l'information. Laisser une entreprise privée l'arbitrage du contrôle de l'information sur tel ou tel. Alors, j'entends que c'est une entreprise privée, mais ils ont une responsabilité éthique et sociétale quand même, à partir du moment où ils ont 2 milliards de clients dans le monde. Non,
mais non, pas du tout. Ils ont une responsabilité devant leurs actionnaires, éthique et sociétale. Pardon, mais vous êtes en train de plaquer des idées qui sont plutôt des idées qu'on entend, mais qui ne correspondent pas à ce que... ils ont une responsabilité par rapport à leurs actionnaires. Ils ont comme responsabilité effectivement qu'il n'y ait pas des catastrophes qui se passent à cause d'eux.
Oui.
Et donc,
Par exemple, ce qui s'est passé en Australie, le jour où Facebook a déclaré la guerre à l'Australie en représailles au projet de loi obligeant les GAFA à rémunérer les médias, Facebook a bloqué tous les contenus d'information dans le pays. Ça pose quand même un problème, ça, non ? Non ?
Bien sûr que ça pose un problème, mais ça pose le problème... qu'enfin on voit qu'il est effectivement du pouvoir qu'ont ces entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas régulées et qui font effectivement ce qui est le plus intéressant pour eux. Et Facebook, pardon, mais in fine, a quand même largement obtenu ce qu'il voulait de l'Australie. C'est-à-dire qu'il a négocié avec qui il voulait et pas avec tout le monde.
Alexandre Lazarek, votre position ?
Quand on est journaliste, quand on est un organe de presse, y compris privé, on a des devoirs. Et la confusion qui se pose ici, c'est que ces réseaux sociaux, qui sont des vecteurs d'information, se sont présentés comme des boîtes aux lettres. Elles estimaient qu'elles n'étaient pas des directeurs de rédaction, de publication. Ouais. Elles estimaient simplement qu'elles diffusaient des informations qui étaient transmises par des tiers. Or, c'est tout à fait inexact, parce qu'ils utilisent des algorithmes qui influencent les utilisateurs. Il y a une hiérarchie des informations, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Or, ils ont essayé jusqu'à présent, en tout cas, d'échapper à leurs obligations en tant qu'organes de presse. Et j'invite véritablement le législateur à les qualifier d'organes de presse, de directeurs de publication et de les soumettre à des obligations qui relèvent du droit de la presse, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent.
Il y a quand même un problème de liberté d'expression qui se pose et de contrôle de l'information avec ces géants du net.
Il y a un problème de régulation globale.
Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont privés, ils en réfèrent qu'à leurs actionnaires. Mais ça pose un problème
Ça pose un problème qu'il faut régler par rapport au cadre législatif dans lequel ils sont. Si vous voulez, ce que vient de raconter mon voisin, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, comme d'ailleurs chez nous largement, ils sont, au sens de la loi, irresponsables. Et ils ont le droit, par contre, d'intervenir dans les contenus à partir du moment où ils sont supposés agir dans le bon sens. Bien. Donc il y a un problème de législation qu'il faut faire évoluer. Bien. Mais dans le cadre actuel, ça va.
On avance. Il y a autre chose qui est soulevée par ce numéro et les articles que vous présentez dans Courrier International, Annick Rivoire. L'exemple de ce qui s'est passé en mars 2018, par exemple, le New York Times révélait que Facebook avait laissé l'entreprise Cambridge Analytica, on en avait beaucoup parlé, siphonner sans autorisation les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs du réseau social, avec pour finalité le fait que ces informations auraient servi à influencer le vote en faveur de Donald Trump et en faveur du Brexit et peut-être d'autres élections à travers le monde. Là aussi, ça pose un problème de stabilité de nos démocraties.
Oui, complètement. C'est comme l'analyse de Christchurch où on voit que l'homme qui a commis ce massacre en Nouvelle-Zélande, en fait, c'est informé pas sur des réseaux complètement radicaux, extrémistes et un petit peu en dehors des clous, mais sur YouTube et sur Facebook. Mmh. Et comment YouTube, en fait, avec ses algorithmes de recommandation, vous enferme dans une bulle. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance et l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on vous indique des contenus qui vont aller dans le sens qui vont au clash, qui vont parce que évidemment le clash et tout ce qui est non démocratique, ça marche beaucoup mieux.
Il y a un jeu très cynique, Joël Toledano, de la part des GAFA et de Facebook sur ce point précis.
Bien sûr, mais attendez, Facebook depuis le début. Quand Facebook a été créé, Mark Zuckerberg l'a créé comme devant respecter le secret, justement, de nos données personnelles, parce qu'il a sorti comme ça un concurrent. Oui. Donc, et puis, ça a évolué progressivement au gré de ce qui était possible de faire avec la publicité ciblée, de ses intérêts, etc. Donc bien sûr que ouais. C'est cynique.
Bon, j'ai pas vu le temps passer, il nous reste 3 secondes et demie. Je voudrais simplement, parce que c'est absolument passionnant, on pourrait y passer la soirée évidemment, je voudrais simplement que vous nous donniez en 3 secondes les bonnes techniques pour éviter de livrer trop de données personnelles à ces géants du net.
Eh bien, utiliser les outils qui sont disponibles sur le plan juridique, regarder les... consentir simplement à transmettre des informations que l'on a choisies,
oui.
Ne pas aveuglément cliquer sur tous les numéros pour accéder au site internet.
Vous voulez dire qu'il va falloir lire à chaque fois les 40 pages de... Hein, c'est
ça ? Les 40 pages, non, parce que figurez-vous qu'il y a une nouvelle recommandation de la CNIL qui indique que, de manière tout à fait aisée et accessible, on doit pouvoir connaître ses droits à la première interface, et on va voir comment les Français se débrouillent avec ça.
Vous avez raison de souligner.
Comment ça se traduit sur nos écrans, d'ailleurs, d'abord.
Merci à tous les trois, et je rappelle ce numéro qui est disponible dans les kiosques, Courrier International hors série pour le mois d'avril et le mois de mai, le coup d'État numérique, voilà. Allez dans les bonnes librairies pour vous le procurer. Merci à tous les trois, 19h50 dans quelques secondes, les archives. On reviendra sur le jour, tiens, où Jacques Chirac a été élu à la mairie de Paris, 77, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat du Club des Idées avec les archives, quand le passé éclaire l'actu, 3 minutes pour comprendre le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir avec vous, on va revenir au 25 mars 77, les premières élections municipales à Paris depuis la commune en 71. Il n'y avait pas de maire, c'était l'État par l'intermédiaire d'un préfet qui gérait Paris. Et cette campagne va être le théâtre d'un affrontement entre deux grands fauves politiques, le président Valéry Giscard d'Estaing et son ancien Premier ministre Jacques Chirac.
C'est ce que les commentateurs appelleront la bataille de Paris. Les tensions entre les deux hommes sont au plus haut. Quelques mois plus tôt, Jacques Chirac claque la porte de Matignon pour incompatibilité d'humeur avec le président Giscard d'Estaing. C'était le 25 août 1976.
Je viens de remettre la démission de mon gouvernement. Je ne dispose pas des moyens que j'estime nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre.
C'est le début du duel. Giscard voit une bonne occasion dans ces élections municipales de déboulonner les barons gaullistes parisiens qui lui sont plutôt hostiles. Tandis que Jacques Chirac hésite, ses conseillers de l'ombre, Marie-France Garraud et Pierre Juillet, lui intiment d'y aller. Quelle meilleure rampe de lancement pour le tout neuf et puissant RPR à l'approche de la présidentielle de 81 que l'Hôtel de Ville de Paris, ses 5 milliards de francs de budget et sa stature internationale. Chirac se lance et va attaquer directement le candidat d'Ornano, ministre de l'Industrie, maire de Deauville, parachuté à Paris par Giscard. C'est au micro Europe numéro 1 de Gérard Carrérou, le 13 janvier 1977.
Le Premier ministre a confié à M. d'Ornano la tâche de candidat maire. Elle se heurtait à un principe. Un maire n'est pas désigné par le pouvoir exécutif, il est élu par les conseillers de Paris.
Voilà, la guerre est donc déclarée au sein de la majorité avec un Jacques Chirac bien décidé à gagner.
C'est une véritable machine qui se met en marche, meeting, tract, affiche, musique de campagne. Et surtout, Jacques Chirac va chercher les voix poignée de main par poignée de main. L'accueil est chaleureux, comme ici, sur un marché. Le 7 février 1977, Europe numéro 1 l'accompagnait.
Ah, M. Chirac, vous n'êtes pas de chaussettes ?
Et j'ai un tout petit pied, je chausse de 45, pour ne rien vous cacher.
Bonjour, Chirac. Quelle madame voudrait vous tirer là ?
Bonjour, madame. Maintenez votre candidature à tout prix. Je n'ai aucune raison de m'arrêter.
Où on apprend que Jacques Chirac chaussait du 45. Alors en face, Valéry Giscard d'Estaing entrera lui-même dans la campagne.
Oui, car son équipe est vraiment à la peine. La campagne de d'Ornano n'imprime pas. Giscard sent l'avantage qu'est en train de prendre Jacques Chirac. Le 9 février 1977, il essaie de rappeler à l'ordre sa majorité.
Je ne permettrai pas que les divisions compromettent le redressement économique de la France. Les querelles de boutiques, les rivalités de personnes doivent s'effacer devant lui.
Il ne faudra pas attendre longtemps pour que Jacques Chirac réponde. Quelques jours plus tard, le président du RPR tape fort et harangue les foules.
Amis et compagnons, on a tout simplement cherché à nous éliminer à Paris. Et ceci au profit d'un clan sans passé et sans droit. Voilà, participant par nos représentants à un gouvernement que nous soutenons, nous sommes en droit d'exiger la neutralité de son chef et de ses ministres dans la compétition entre les listes de la majorité.
Et le 25 mars, Jacques Chirac devient donc le premier maire de Paris, élu depuis 1871.
Il remporte 50 des 109 sièges du Conseil, 40 pour la gauche, 15 pour les Giscardiens. Dornano est même battu dans le 18e arrondissement où il se présentait. Cela donnera un sérieux coup au septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac, lui, restera maire de Paris jusqu'en 1995, date de son élection à la présidence de la République.
Vous aviez quel âge, vous, en 77?
Je n'étais pas né.
Ah, mais vous en parlez bien en tout cas. Bravo mon cher Victor Chabert.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57 dans quelques secondes, le rappel de l'info avec Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer pour
qui
la musique.
Qui n'était pas né non plus en
qui
77.
N'était pas né non plus. Et moi non plus d'ailleurs, ben voilà. Que vous l'avouez.
Les perdreaux de l'année. Et mon invitée de ce soir n'était pas non plus née en 1997. Elle a 39 ans, elle est américaine. Elle a décidé de ne pas choisir entre le blues, le gospel, la soul ou la country, puisqu'elle sait tout faire. Elle s'appelle Valérie June. Elle sera en duplex avec nous depuis sa maison à Memphis, dans le Tennessee.
Dis donc, c'est drôlement chouette, ça.
Ah, c'est beau comme tout. Valérie June.
Waouh. On va écouter avec
génial.
Vous.
Génial. Merci, Julien.
Merci, Émilie. À tout de suite. Très bonne fin de soirée avec Émilie Mazoyer. Donc, dans un instant, le rappel de l'info. Demain, à cette même place, je laisse le micro à Wendy Bouchard. Voilà, je vais m'en sortir. Je vous souhaite un très bon week-end, bon vendredi à lundi 18h. Merci de votre fidélité.